Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour Madame Labrouze, vous êtes consultante en finances locales pour les collectivités locales et régulièrement formatrice au CNFPT, dans les INSET, en particulier pour les publics des directeurs des services techniques. Aussi, j'aimerais vous questionner sur l'actualité, notamment sur les lois de la décentralisation, les lois NOTRe, qu'ont-elles apporté à la pratique des directeurs de services techniques ?
Bonjour. Alors, il faut savoir que les lois inhérentes à la décentralisation ont été initiées il y a une trentaine d'années, donc est largement consolidée depuis la dernière en date, à savoir la loi NOTRe, qui a reconfiguré complètement le territoire de la République. À ce titre, on ne peut que noter la montée en puissance des investissements. Et de fait, cette montée en puissance des investissements amène les services à une optimisation de leurs ressources, enfin en tout cas à la recherche d'une optimisation des ressources, étant précisé que les efforts notamment financiers demandés aux collectivités locales amènent celles-ci à s'inscrire dans une démarche de programmation et de pluriannualité, même si effectivement un budget est susceptible d'être prévu pour une seule et unique année. Alors cette démarche, effectivement, permet également de se doter de moyens qui s'inscrivent dans une logique de planification des besoins de la collectivité. Et les services techniques deviennent de fait des acteurs à part entière. En effet, on leur demandera toujours des évaluations en termes de choix de projet, d'estimation des coûts, tant en investissement qu'en fonctionnement. Et ils deviennent effectivement vraiment des interlocuteurs à part entière, des élus notamment, mais également des services financiers. Voilà ce qu'on peut dire donc sur eux. L'importance de la décentralisation au niveau donc de la gestion des services techniques.
Donc, Madame Labrousse, quel conseil vous pourriez donner au directeur de services techniques pour avoir un dialogue équilibré avec les services finances et les élus, sachant que on ne demande pas au directeur de services techniques d'être des experts, mais avoir un socle commun, de connaissances avec les services finances.
Alors justement, je pense qu'il faut tout d'abord démystifier complètement la matière financière. Chacun a son vocabulaire, chacun a ses démarches, mais bon, pour ce que la passerelle puisse s'instaurer entre les finances et les services techniques, il me semble essentiel que les directeurs de services techniques puissent s'approprier les fondamentaux en matière de gestion budgétaire. Le vocabulaire, effectivement, l'architecture des documents budgétaires, la répartition des rôles, le calendrier, et ce, afin de créer les conditions favorables aux échanges. En effet, les directeurs de services techniques doivent pouvoir retrouver dans les documents de la collectivité ce qui concerne spécifiquement leur activité et mettre en évidence, le cas échéant, les contributions aux autres services de la collectivité. Donc effectivement, il s'agit d'identifier, soit immédiatement par le biais donc de la consolidation des besoins des services dans le budget général. Okay, donc ça, on peut identifier effectivement les moyens mis à la disposition des services techniques, mais également, il me semble que comme la tendance aujourd'hui est plutôt à l'internalisation des travaux, à savoir que l'on fait en interne plutôt que de faire, eh bien, le rôle également des services techniques, c'est qu'il faut qu'ils puissent se retrouver dans le document budgétaire, donc il faut qu'ils puissent se l'approprier également, eh bien des éléments de coût permettant d'identifier et de valoriser leurs propres activités. Ça, il me semble que c'est essentiel qu'on puisse maîtriser à 100%, mais en tout cas d'identifier les cycles qui sont véritablement ceux qui concernent les activités des services techniques.
Donc, Madame Labrousse, après avoir vu le contexte des lois de décentralisation et puis ce dialogue équilibré avec les services financiers, si on en revient à ce socle de formation fondamentale pour les directeurs de services techniques, quels éléments de repère vous pouvez apporter à ces directeurs de services techniques sur les principes de comptabilité publique et les documents budgétaires ?
Alors, il faut savoir que les budgets des services techniques reposent, pour la plupart d'entre eux, uniquement sur une logique de dépenses et de dépenses réelles. Alors qu'il existe au sein donc de la comptabilité budgétaire à proprement parler, des outils qui permettent de compléter justement ces dépenses réelles par des montages justement qui sont d'ordre technique budgétaire à proprement parler. Je pense aux travaux en régie notamment, puisque il est tout à fait possible de faire au sein de la collectivité des travaux, donc de l'investissement, ok, alors que les dépenses occasionnées par cet investissement sont supportées par les dépenses de fonctionnement, notamment les charges de personnel ou autres. Imaginons que je décide de faire un hangar par mes services techniques. Il est évident que je vais envoyer des agents sur le terrain qui sont payés par la collectivité. Je vais faire acheter du ciment, je vais faire acheter de la peinture, enfin tout un tas d'éléments qui sont considérés comme de la dépense de fonctionnement. Mais à la sortie, j'aurai bien générer un investissement. Donc, la mise en œuvre de ce dispositif des travaux en régie, qu'on qualifie d'opération d'ordre au sein de la comptabilité budgétaire, permet donc à la collectivité de retraiter des informations, donc des dépenses de fonctionnement, en investissement. Ce qui modifie et optimise, il faut le dire, ce qui relève encore une fois de la gestion budgétaire à proprement parler. Donc, il est évident que les éléments donc de calcul de coûts du hangar sont l'apanage des services techniques, qui mieux qu'eux peuvent quantifier donc par le biais d'une base de données le nombre d'heures travaillées, le nombre de sacs de ciment achetés, etc., ou déstockés, dans l'hypothèse où on en aurait déjà en stock. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ne s'improvisent pas, et encore faut-il avoir connaissance du dispositif pour pouvoir en faire bénéficier la collectivité. Il n'y a pas que les services financiers qui sont à l'origine de ce genre de démarche. À côté de ça, il est évident également que dans le cadre de la gestion budgétaire, d'autres opérations peuvent permettre aux services techniques de faire mieux valider leur budget de service. Notamment, je pense au système des provisions. Si moi, directeur des services techniques, je propose à mes élus ou aux services financiers des grosses réparations, du gros entretien d'ici 2 ou 3 ans, eh bien, je suis en capacité de planifier donc ces informations-là, ces besoins-là, devrais-je dire, sur justement la pluriannualité. Donc cette pluriannualité, on verra que aujourd'hui, en 2018, elle est totalement d'actualité, que ce soit sur ce qui relève de l'investissement, mais également sur ce qui relève du fonctionnement. Alors, je vais rattacher ça, pareil, à ce qu'on convient de désigner comme procédure d'engagement. Vous savez que l'engagement juridique et comptable est un impératif, une obligation en matière de gestion locale, à savoir que j'attribue un marché public, eh bien ce marché public, à partir du moment où il a été notifié à une structure quelle qu'elle soit, un groupement d'entreprises ou un prestataire de services, eh bien ce marché public-là emporte engagement juridique de la collectivité entre la collectivité à proprement parler, l'ordonnateur et évidemment la personne qui a été retenue dans le cadre de cette mise en concurrence. Alors là, il faut être également conscient d'une chose, c'est que nous sommes quand même confrontés à la fin, de l'exercice budgétaire. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'un budget court du 1er janvier au 31 décembre. Alors, le fait d'anticiper la pluriannualité permet, plutôt que d'inscrire une enveloppe globale complète, donc liée à un investissement quel qu'il soit, eh bien, on dispose aujourd'hui d'outils qui permettent justement de gérer cette pluriannualité pour éviter d'alourdir les ouvertures de crédit, c'est-à-dire tout ce qui relèvera de l'inscription sur un seul et unique budgétaire d'une enveloppe qui s'avérerait de toute façon utilisable sur 1, 2, 3 plus d'années relativement, encore une fois, au déroulement du marché. Donc, ce dispositif qu'on appelle les autorisations de programme et crédit de paiement, malgré tout, même si, il met à mal le principe de l'annualité budgétaire, pour vocation le fait de rationaliser les ouvertures de crédit et d'éviter d'alourdir artificiellement donc l'équilibre budgétaire qui devrait en découler. Donc, Là, je pense que, outre justement le volet budgétaire classique, dépenses, recettes, investissements, fonctionnement, les services techniques, les agents des services techniques doivent être en capacité, encore une fois, de repérer des opérations qui sont de simples régularisations budgétaires, mais qui ont une incidence sur l'optimisation budgétaire de la collectivité à part entière. Voilà. Donc, effectivement, il faut quand même se former. Ce sont des choses qui ne s'improvisent pas et qui, à ce titre-là, méritent de toute façon d'être appréhendées de la façon la plus pratique qui soit. Bon, je vous ai parlé donc du hangar qui généreront des travaux en régie, hein, à savoir que bon, on peut retraiter du fonctionnement en investissement et de fait également on valorise les travaux des services techniques, ce qui me semble assez important au vu justement de la communication qui doit pouvoir s'instituer entre les finances, les élus et les services techniques. Et à côté de ça, effectivement, bon, je pense qu'il est très important de savoir, outre ce volet strictement technique, générer tout ce travail de planification, ok, qui fait que, bon, voilà, aujourd'hui les investissements se réalisent, sauf les investissements récurrents de voirie et autres, mais bon, les investissements peuvent s'intégrer sur la pluriannualité. Et à ce titre-là, il faut que donc les responsables des services techniques aient en tête en amont la durée prévue d'un chantier, mais également tout ce qui occasionnera des dépenses, que ce soit sur le volet investissement, mais également sur le volet fonctionnement, à partir du moment où un équipement, quel qu'il soit, que ce soit une piscine, que ce soit un jardin public, ok, donc à partir du moment où cet équipement-là sera mis en service, il faut également anticiper en amont les coûts liés au fonctionnement de l'équipement ainsi généré. Qu'il ait été fait par la collectivité, c'est-à-dire en intra, par le biais de ces fameux travaux en régie, ou qu'il ait été généré par, un groupement ou autre dans le cadre d'un marché public. Voilà.
Donc, Christina Brousse, j'aimerais aussi vous demander un point d'actualité sur les budgets participatifs initiés par certaines collectivités pionnières, grandes ou petites, en milieu rural. Est-ce que vous trouvez que c'est un dispositif où les directeurs de services techniques peuvent porter des gros ou petits projets?
Alors, les budgets participatifs, pour ceux qui ignoreriez ce dont il s'agit, eh bien, consistent effectivement à, comme son nom l'indique, créer une participation entre la population et la collectivité à travers des choses qui semblent importantes aux yeux donc des usagers. Ça peut être l'aménagement d'un carrefour, ça peut être la construction d'un espace vert, enfin en tout cas tout un tas d'éléments qui de fait remontent donc auprès des services de la collectivité, de façon à pouvoir justement impliquer autant que faire se peut la population sur des projets nouveaux. Alors les directeurs de services techniques, quant à eux, pourront faire reporter un jugement de valeur sur la faisabilité des projets qui remontent, si je puis m'exprimer ainsi, auprès donc des décideurs. C'est eux qui, dans un deuxième temps, c'est-à-dire après validation du projet, donc dans le cadre donc de la gestion participative de la collectivité, ce sont eux qui seront à même donc effectivement de faire toujours pareil cette fameuse planification et de façon effectivement à mesurer l'incidence en termes budgétaires de ce que la population désire voir naître, si je puis dire, dans le cadre des projets futurs de la collectivité. Donc oui, effectivement, ils sont, à mon avis, en première ligne, dans la mesure où c'est eux qui, en fonction des projets évidemment, seront à même de juger, de jauger de la faisabilité et surtout de la pertinence effectivement des projets qui remontent donc auprès des décideurs.
Je vous remercie, Madame Labrousse. Sachez qu'au CNFPT, les formations finances pour les services techniques existent dans les 4 INSET, Angers, Nancy, Montpellier et Dunkerque.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.